Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC, RMC Story pour les GG, pour les grandes gueules. Nous sommes ensemble et en direct à Villepinte, Olivier, au salon Global Industrie.
Ben oui, nous voilà au parc des expositions de Villepinte en région parisienne pour cette 6e édition de Global Industrie. Alors c'est passionnant parce que on va, et d'ailleurs on va le découvrir tout à l'heure, c'est que l'industrie embauche beaucoup de monde. 200 000 postes à pourvoir, c'est des postes en CDI, c'est des postes très bien payés, c'est des postes d'ingénieurs. Et pas seulement pour les garçons, les filles sont aussi attendues. On en parlera parce que c'est peut-être ça l'avenir de la France. On cherche de l'argent en ce moment avec les déficits publics. Ben, si on travaille dans l'industrie, ça fera de la croissance et ça fera des recettes fiscales supplémentaires pour M. Bruno Le Maire.
L'innovation est à l'honneur, l'innovation aussi écologique, technologique. Ce sera au cœur des discussions des GG. Aujourd'hui, on a Flora Guebali qui est avec nous, entrepreneur dans la transition écologique, justement. Bonjour Flora.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis en face d'un stand avec écrit « Décarbonons l'industrie ». Donc moi, je suis heureuse d'être là.
On l'a fait exprès.
Voilà, vive l'industrie européenne.
Et tu as essayé un vélo tout à l'heure d'ailleurs, qui est fait en partie avec du matériel, du plastique que l'on retrouve dans les océans et que l'on recycle.
Oui. Alors, vous pouvez avoir toutes les infos sur mes réseaux sociaux. C'est une marque de vélo qui s'appelle Igus et qui fait des vélos en déchets plastiques. C'est ça l'avenir. Et donc, le sujet, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'usines pour traiter les déchets. Et donc, ça ouvre massivement, mais il faut que ça continue. Ouais. Donc, si vous êtes jeune, que vous êtes concerné par la transition écologique, il y a plein de boulot et plein de la route du succès, c'est dans l'industrie verte.
Mourad Boudjela, l'éditeur de bande dessinée des nôtres aussi aujourd'hui. Bonjour mon cher Mourad.
Bonjour, bonjour, c'est les grandes gueules en live.
Nous sommes avec Antoine Diers, venu de Dunkerque par le 5h.
Pris un autre train pour arriver plus proche d'ici. Je suis arrivé à Roissy-Charles de Gaulle. Mais j'arrive effectivement de Dunkerque. Et quoi de mieux qu'un Dunkerquois pour parler d'industrie? Parce que Dunkerque, c'est une terre d'industrie, un des plus gros pôles industriels. Engagé dans la décarbonation, engagé dans la transformation de l'industrie vers l'avenir. Donc je suis heureux d'être là.
Nos sujets de discussion aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules, parce que vous pourrez parler avec nous comme tous les jours au 32-16, à 11h20, les déficits, faut-il taxer les super profits? On reparle là des écoles de puteaux. Vous savez qu'on teste l'uniforme dans les écoles. À puteaux dans les Hauts-de-Seine, le problème c'est que les uniformes sont faits au Bangladesh. Est-ce que c'est au Pakistan? Est-ce que c'est honteux? Notre premier sujet de discussion va nous emmener d'ailleurs à l'école avec la démission d'un proviseur menacé de mort. Vous vous souvenez, il avait demandé à une jeune fille de retirer son voile. Est-ce que l'État n'a pas su le protéger? Est-ce que c'est la faillite de l'État? 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC, les grandes gueules.
Ça se passe à Puteaux, vous vous souvenez de cette histoire, le proviseur du lycée Ravel dans le 20e arrondissement a dû quitter ses fonctions.
Oui, en fait, vous vous souvenez, c'est ce proviseur qui avait demandé à une jeune fille en BTS de retirer son voile, elle n'avait pas voulu le faire, ensuite elle l'avait accusé d'avoir été brutalisé par ce proviseur, finalement, j'aimerais bien qu'on ne parle pas dans l'oreillette parce que c'est compliqué, et donc finalement la justice n'a pas suivi la plainte de la jeune fille, cette plainte a été classée sans suite. Ce proviseur a été menacé de mort sur Internet et là, finalement, il jette l'éponge. Alors, il est à quelques mois de la retraite, mais on nous dit officiellement que pour des raisons de sécurité, en tout cas, c'est son successeur qui a dit ça, il préfère se retirer. L'élève, d'ailleurs, venait à nouveau de se plaindre de cette altercation dans une vidéo relayée par le collectif contre l'islamophobie en Europe. Sachez que le collectif contre l'islamophobie en France avait été dissous, mais après l'affaire Mila notamment, là il y a un nouveau collectif qui agit. Est-ce que c'est pas quand même la défaite de l'État qui n'a pas su protéger ou en tout cas réconforter ce proviseur, être à ses côtés? Hier, il est obligé de jeter l'éponge.
32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules, Antoine.
Oui, c'est une défaite de l'État. Qu'un proviseur soit contraint à la démission sous la pression de l'islamisme, c'est une défaite de l'État et une victoire même de l'islamisme. On sait qu'on a sur notre sol des gens qui attaquent notre République constamment, mais moi, là où je suis encore plus outré, c'est quand je lis le tweet de Daniel Simonet, député LFI de cette circonscription.
Le 20e arrondissement à Paris.
Exactement. Qui, le 1er mars, disait, je cite, « Le proviseur a-t-il frappé l'élève ? Point d'interrogation. Le vrai faux point d'interrogation. Le respect du non-port du voile ne justifie aucune violence. » Et donc, en réalité, nous avons l'islamisme, qui est un danger pour la République, et nous avons également une députée, et je vais mettre dans le même sac l'ensemble des élus LFI, qui soutiennent les islamistes et qui attaquent la République par ce soutien. Eh bien, moi, je pense qu'il est urgent de réagir si on ne veut pas un nouveau Samuel Paty. Nous devons rétablir à l'école l'autorité de l'État. Et je crois que la justice est défaillante également dans cette affaire, puisque il y a une dénonciation manifestement calomnieuse de cette jeune fille et que rien n'est fait pour la sanctionner, pour arrêter, etc.
Elle n'a pas suivi la plainte de la jeune fille, puisque ça n'a pas été confirmé par des
Mourad.
Alors d'abord, il faudrait expliquer, Antoine, que c'est pas parce qu'une jeune fille porte un voile qu'elle est islamiste, elle est musulmane. C'est totalement différent.
Mais sauf que là, menacer, c'est pas des musulmans normaux qui menacent les proviseurs. Mourad, ton argument est nul parce que tu mélanges les islamistes.
Attends, Mourad développe.
Islamiste, c'est autre chose. Elle est musulmane. Alors après qu'effectivement, elle n'est pas apportée.
Et donc les musulmans menacent des proviseurs. C'est ça que tu es en train de me dire?
Non.
C'est pas les islamistes qui menacent les proviseurs.
Chacun son tour. Mourad.
Elle n'est pas islamiste. Islamiste, c'est autre chose. Donc il faut arrêter de mélanger musulmans et islamistes. C'est deux choses différentes.
Qui menace des proviseurs?
C'est deux choses différentes.
Mais donc dis-moi qui menace des proviseurs.
N'était pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Elle n'a pas respecté la loi.
C'est pas parce qu'elle a voulu porter un voile en ne respectant pas la loi dans son établissement scolaire qu'elle est islamiste.
Et moi, ensuite, dans ton argument,
le problème,
par contre,
je vais le développer et après tu pourras le critiquer. Le problème, c'est qu'on assimile souvent une entité morale à une entité physique. Aujourd'hui, l'éducation nationale, c'est pléthore d'entités physiques qui sont des proviseurs, qui sont des directeurs d'école et qui ont peur. Là-dessus, je veux bien l'entendre. Qui ont peur. Et ce n'est pas l'échec de l'éducation nationale, c'est l'échec de personnes physiques qui ont peur parce qu'elles ne sont pas suffisamment protégées et que c'est très compliqué de les protéger. Je suis bien placé pour en parler parce que je l'ai vécu. J'ai quelqu'un de ma famille qui a eu ce genre de problème. Je suis intervenu et je me suis retrouvé face à une directrice qui faisait dans son froc. Mais qui faisait dans son froc, qui avait très 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 peur. Je le reconnais parce que il y a ce fantasme de l'islamisme, du mec qui va t'égorger, ça arrive.
C'est pas des fantasmes, ça arrive.
Oui, mais ça arrive. Mais il y a une très grande peur, je reconnais, sur la religion.
Bah, on n'a pas envie de mourir.
Il y a des personnes physiques dans l'éducation nationale.
Il y a eu deux profs qui ont été quand même
terrorisés. Voilà, qui sont totalement terrorisés. Et ça, c'est inqualifiable. Après, on ne peut pas parler de l'échec de l'éducation nationale. On peut parler de la peur de personnes physiques qui n'assument pas leur rôle et j'ai presque envie de dire que par moment on peut les comprendre. Donc tu vois, je vais plutôt dans ton sens. Donc
mais là t'as tourné autour du pot.
Non, je ne tourne pas. La seule chose, c'est que on ne peut pas prendre cet exemple comme du grain à moudre pour développer des théories comme celles que tu as envie de développer. Ce qui est insupportable, c'est que d'un os tu fais un festin.
Il y a eu d'autres.
Voilà. Je te pose une question. Cette jeune fille, elle arrive au lycée. Si c'est une musulmane, tout ce qu'il y a de plus respectable, elle sait qu'elle doit enlever son voile au lycée. Ce que font les jeunes filles en général. En revanche, moi, je te dis qu'il y a nécessairement de l'islamisme en dessous, parce qu'il y a de la provocation à ne pas retirer son voile.
Quand elle enlève son voile, c'est un acte d'adhésion à Al-Qaïda.
C'est de la provocation quand même.
C'est de la provocation. Je te dis qu'à l'école et dans son milieu, on lui a dit jeune fille, tu iras au lycée et tu n'enlèveras pas ton voile. Et si on te fait une réflexion, etc., tu créeras un scandale. Et ça, c'est l'islamisme. Et si tu dis que c'est juste des musulmans modérés, eh ben on a un vrai problème. Ça veut dire que le problème est beaucoup plus grave que ça.
L'islamisme, pour moi, ce sont ceux qui font régner la terreur.
Il y a simplement des gens qui
appliquent leur religion. Flora. Peut-être d'une façon un peu trop zélée par rapport au loi de
la. C'est pas l'islam zélé, c'est de l'islamisme.
Flora.
Non. Il se passe un truc absolument dramatique, c'est que les professeurs et les proviseurs ont peur de faire leur travail en France. Et le problème, c'est qu'on est tellement dans une hystérie collective que même nous, alors qu'on est assez loin de ce sujet d'un point de vue géographique, on est sur un plateau, on n'arrive pas à garder notre calme et à être capable d'avoir un débat apaisé sur cette question. Moi, le vrai sujet, c'est l'éducation nationale. C'est pas l'islam. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a une loi de la laïcité qui, depuis 2004, impose aux jeunes filles et à tous les jeunes de venir tête découverte et sans signe ostensible de leur religion à l'école, on n'arrive plus à faire respecter ça. Moi, quand j'allais au lycée,
c'est l'islam,
le proviseur, il était... Mais non, laisse-moi finir, Antoine.
Parce qu'en fait, on entend
des mots-clés, islam, mais qu'est-ce que les gens peuvent comprendre?
Tu dis qu'on n'a pas de problème avec l'islam. Ton argumentation en disant on n'a pas de problème avec l'islam, on a un problème.
J'ai pas dit ça. Pourquoi tu me fais dire ce que j'ai pas dit?
C'est ce que tu viens de dire. On n'a pas de problème avec l'islam, on a un problème avec l'éducation nationale.
Attends, Flora finisse.
T'es vraiment un hystérique de service. C'est impossible d'avoir une conversation apaisée sur l'islam avec...
Attends.
Justement, c'est impossible. En fait, t'es tellement obsédé par ces questions que c'est impossible d'avoir une conversation apaisée. Et de poser le cadre du débat. Le problème, c'est que nos auditeurs, ils ont envie de comprendre ce qui se passe. Et ils ont envie que les choses soient mises sur la table de manière simple et intelligible.
Je te dirai juste après ce qui m'a choqué.
Je vais terminer, tu peux arrêter de me couper la parole. Dès qu'on parle d'islam, tu t'excites. Dès qu'on parle d'un autre sujet, tu es tout calme. Donc tu vas te calmer aussi, parce qu'après, on va parler d'Ayatollah Kamoura.
Tu vas encore t'exciter. Tu vas te calmer comme ça, tu te prends pour qui là?
Donc je te prends pour quelqu'un qui essaye d'avoir une conversation apaisée.
Vas-y, avance.
Mais t'es pas apaisé, tu provoques.
Arrête.
J'avance.
Mais Antoine, faut pas couper.
Et que les profs aient peur dans ce pays, c'est un scandale. Que la laïcité soit mal appliquée, c'est un scandale. Moi, quand j'allais au lycée, il y avait le proviseur qui était devant l'école tous les matins et qui disait aux garçons, toi, enlève ton bonnet. Et il disait, mais j'ai froid. Et il disait, je m'en fous, on vient pas la tête couverte à l'école. Il y avait une application
de l'autorité,
de la laïcité, et je peux vous dire que ça nous a bien réussi. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est l'autorité à l'école, parce qu'on ne sera pas capable de faire des citoyens émancipés et libres de choisir ce qu'ils veulent faire de leur vie si on n'est pas capable de leur donner un cadre. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des professeurs qui souffrent sur tout le territoire parce qu'on ne leur donne pas les moyens d'exercer leur autorité sur les jeunes.
Non, mais parce que c'est
une histoire. Attendez. Et donc, autant je suis pour la liberté des femmes de faire ce qu'elles veulent, et jamais vous m'entendrez critiquer le voile, critiquer l'islam, etc. Autant, jusqu'à 18 ans, on est à l'école, on est pris en charge par le service public.
Le scandale aujourd'hui, c'est lui qui a menacé de mort.
Et si on n'est pas d'accord, deux options. Un, on va dans une école privée. Deux, on va dans un pays qui n'a pas les mêmes règles de laïcité.
Le problème,
c'est... Et ça s'applique pour toutes les religions.
Le problème, c'est que cette histoire devrait rester à l'intérieur du lycée. C'est un conflit entre un proviseur et une élève. Et ça doit se... Et le problème, c'est que effectivement, il y a la récupération, il y a ce collectif notamment qui s'en mêle, il y a cette députée Danielle Simonet qui tweet trop tôt, qui ne sait rien de ce qui s'est passé et qui met un peu d'huile sur le feu en disant ah ben elle a été frappée, etc. Et puis ensuite sur les réseaux sociaux, on se transforme ça en menace de mort. Donc on parle d'un fait qui devrait rester à l'intérieur. Excusez-moi, mais des conflits dans les établissements scolaires, il y en a toujours, etc. Ça doit se régler au sein de l'établissement scolaire. Et le problème, c'est que ça déborde et que c'est récupéré de toutes parts.
Et ensuite, on ne peut pas menacer un proviseur, on ne peut pas le menacer de mort parce qu'il a refuser l'entrée du collège ou du lycée à une fille voilée. C'est d'ailleurs anormal que la personne qui l'est menacée de mort soit en liberté, pour moi. Voilà, le problème essentiel, il est là.
Après, faut les retrouver.
J'ai lu le communiqué du proviseur. Sincèrement, il n'a pas l'air terrorisé. Hein, parce qu'il explique qu'il habite à côté du... Il dit, on se reverra, puisque j'habite pas loin, j'habite à côté. Oui. Et de toute façon, je serai là le 21 juin pour la fête de l'école. Donc déjà, il dit, je suis là le 21 juin. Si par hasard, il y a, comme dirait notre ami Antoine...
Il s'en va au milieu de l'année, quand même.
Il est à 7 mois de la retraite.
Voilà. Moi, je vais vous dire pourquoi je suis un petit peu monté dans les tours tout à l'heure. Effectivement, c'est pas mon genre. Je suis plutôt calme. C'est que Mourad, comme Flora, vous avez tous les deux commencé vos interventions en disant c'est pas l'islam.
Mais j'ai jamais dit ça.
Non, mais attends, mais je vais t'expliquer.
Mais qui ne mentent pas en direct.
On prendra la VAR et on verra.
Si vous ne laissez pas parler, on ne peut pas.
C'est pas une question de religion, d'islam, c'est une question d'éducation nationale.
C'est une question d'interprétation de l'islam sur une personne physique. Tu le généralises à toute l'islam.
Moi je ne généralise pas. Je vous dis que si on ne met pas les mots sur le mal, on invisibilise le mal. Et le mal, c'est, vous l'appellerez comme vous voulez, des musulmans radicaux, moi j'appelle ça des islamistes, etc., qui décident de tester notre République, et des gens qui, quoi qu'il arrive, prendront toujours fait et cause pour les musulmans ou les immigrés dans une logique communautaire. Et moi, je dis que tous ceux qui tiennent à la République, moi le premier, on doit être intraitable.
Et moi, je dis que tous ceux qui participent au clivage, ils font monter ce que tu décris. Et toi, quand on fait la campagne d'Éric Zemmour, on est responsable du clivage
et de la violence.
Je pense que le discours de réfléchir à comment les inclure, c'est le deuxième niveau de la criminalisation de mon propos. C'est-à-dire que je dis, on a un problème avec l'islam.
La communication, elle n'a pas de niveau, je te rassure. Tu me parais un peu prétentieux.
Je dis, on a un problème avec l'islam. Vous m'avez dit, non, c'est pas un problème avec l'islam. Je dis, si on a un problème avec l'islam,
tu as un problème avec l'islam.
Et maintenant, on me répond, c'est toi qui as un problème avec l'islam.
Toi, tu as un problème avec l'islam. On va te dire, toi, tu as un problème avec l'islam. On pensait que ça allait mieux, mais tu as des rechutes, apparemment.
Tu le dis tout le temps dans les GG.
Flora, tu me laisses parler ? Je vous dis que vous êtes des complices des islamistes.
Antoine, islam.
Vous êtes. Mais on a raison d'avoir un problème avec l'islam aujourd'hui. Alors, vous êtes des complices des islamistes en tentant de les descendre. Et donc aujourd'hui, désignez. Est-ce que vous pouvez nous dire, les islamistes sont des ennemis de la République ? Il faut les
pas de problème à dire.
Soyez du bon côté.
Bon, on va continuer la discussion. On va voir ce que vous en dites aussi au 32-16.
Moi, c'est terminé. Tu crées des clans.
C'est la République contre ses clans.
Il y a des gens qui se disent, bon, mais finalement, avec le discours qui est tenu, ben, j'ai pas ma place dans la République. Par contre, j'ai ma place dans l'islam.
Inverse pas les choses.
Il y a des gens qui ne se reconnaissent plus dans la République, à qui on explique que cette République n'est pas la leur.
Mais non,
tu tombes dans le piège. Si on leur explique en plus qu'ils ont raison,
tu tombes dans le piège.
Voilà ce qu'on a.
Voilà. Alors, dans un instant, la discussion continue.
Comme les gens qui défendaient, ils font le 16
avec vous.
Ils font un fonds de commerce pour essayer soit de toucher le droit d'auteur, soit d'être
élu. Pardon, juste survivre. Sur le proviseur du lycée Ravel dans le 20e, qui a dû quitter ses fonctions suite aux menaces de mort. A tout de suite avec les Grandes Gueules.
RMC. 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules en direct de Global Industrie, le salon de l'industrie française qui se retrouve à Villepinte jusqu'au 28 mars. On parlera tout à l'heure de ce secteur de l'industrie qui cherche 200 000 contrats, que ce soit en CDI ou en CDD. L'industrie repart, c'est pour ça que les GG sont là pour en discuter tout à l'heure. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez, grâce à RMC, aux Grandes Gueules en particulier, gagner 50 000 euros. Faut pas oublier le jeu du coffre. Dès que vous entendez l'alarme du coffre, eh bien, vous avez 5 minutes devant vous pour m'envoyer coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Vous inscrivez, vous jouez, vous gagnez. Vendredi, vous êtes avec nous. Et vous gagnez soit une semaine de vacances dans un camping Tikayan pour 6 personnes, soit 2500 euros, soit peut-être les 50 000 euros. Ça vaut le coup. Envoyez coffre par SMS au 732-16. On revient à notre discussion à propos du proviseur du lycée Ravel à Paris qui s'était retrouvé menacé parce qu'il avait demandé à une élève de retirer son voile. On va en parler avec Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous Bonjour pensez de cette tous. Histoire ? Est-ce que c'est la faillite de l'État ?
Écoutez, je pense que ce n'est pas la faillite de l'État, c'est la faillite de la société française. Nous sommes dans une société où on n'est pas d'accord sur ce que l'on veut. Écoutez, les deux personnes qui parlaient tout à l'heure, au bout de 2 minutes, la jeune femme a commencé à insulter le jeune homme, ou à peu près la personne qui est en face d'elle. On n'est pas d'accord, on n'est fondamentalement pas d'accord sur ce que l'on doit faire. Comment voulez-vous que l'école sache faire ?
Oui, sauf que dans le cadre de l'école, il y a les adultes et il y a les élèves. C'est-à-dire que les élèves doivent se plier à l'autorité, à la loi, à la règle. D'ailleurs, il faut quand même préciser que dans la plupart des établissements, ça se passe très bien depuis 2004. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me souviens, quand on avait fait voter cette loi, on avait dit, vous allez voir, toutes ces filles vont se réfugier dans des écoles coraniques, etc. Finalement, quand l'État fait preuve d'autorité et ferme, sur ces principes, il n'y a pas de problème. C'est quand on commence à trouver des excuses, à dire attention, et finalement à subir la tyrannie des minorités, que l'État est faible. Et là, en fait, le proviseur a fait son job. Il y a une jeune fille qui visiblement voulait manipuler tout ça. Ça aurait dû rester là. Et d'ailleurs, c'est de la fille qui aurait dû être sanctionnée. Elle avait accusé injustement ce proviseur. Moi, je pense qu'elle aurait dû être exclue, ou en tout cas sanctionnée. Et c'est ce qui, l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que c'est le proviseur qui est obligé de partir plutôt à la retraite parce qu'il n'en peut plus.
Parce qu'il ne
se sent pas en sécurité. Donc, c'est, en fait, c'est les choses sont inversées. C'est ça qui ne va pas.
Si je peux vous répondre rapidement, madame, malheureusement, je ne suis pas forcément d'accord avec vous sur le fait qu'on ne soit pas d'accord. Parce que si on n'était simplement pas d'accord, le problème serait peut-être trop simple. Il faudrait aller voter à une élection, voir quel camp emporte la majorité et ceux qui gagnent auraient des politiques utiles.
Mais oui, là, mais madame, nous ne sommes pas des cons.
Je crains que le problème soit encore plus compliqué que ça et que ce soit pas qu'on soit d'accord ou pas d'accord, que ce soit qu'on n'arrive même pas à regarder les choses telles qu'elles sont et à poser les termes du débat. Parce que ici autour de la table, je crois qu'on est tous d'accord pour respecter la loi de la laïcité de 2004 qui interdit le voile à l'école. Là où on n'est pas d'accord, c'est justement quelle est la question.
Les signes religieux.
En fait. Oui, les signes religieux, dont le voile.
Bon, mais écoutez, moi je vais vous dire, hier, une de mes amies qui est directrice d'une école primaire descend de sa voiture pour aller voir une amie et là, elle se fait agresser par la mère d'un de ses élèves. Avant de descendre de sa voiture, la dame la voit dans sa voiture, s'approche, tape sur la vitre en lui disant « salope, salope ». Et
Pourquoi
l'amie est restée dans sa voiture un peu affolée et elle est descendue, elle était à moitié prête à s'évanouir d'angoisse. Donc, si vous voulez, ce que l'on voit dans les lycées, on va le voir dans quelques temps dans les écoles primaires.
Il faut pourquoi cette parent d'élève a insulté votre amie ?
Parce que, comment dirais-je, le petit garçon qui a 6 ans s'était fait disputer parce qu'il avait disputé, il s'était battu avec une petite, il avait insulté une petite amie. Et donc, enfin, une petite fille de sa classe.
Une camarade
donc,
de classe,
oui, c'est ça. Il avait dit, arrête, tiens-toi tranquille.
Oui, il avait réprimandé.
Donc, en fait, on ne supporte plus qu'on réprimande les enfants.
L'échec de l'éducation nationale, c'est que, moi, j'ai vu sur quelques dossiers récemment, que quand des élèves étaient opprimés, c'était eux qui devaient changer de lycée. C'est l'oppresseur qui doit changer de lycée, voire être viré. Ça, déjà, c'est l'échec de l'éducation nationale. Ouais. L'échec de l'éducation nationale, c'est qu'un dossier comme celui-là doit s'arrêter à l'exclusion de la jeune fille pour une semaine parce qu'elle ne respecte pas la loi, point barre, et que celui qui menace de mort doit être sanctionné gravement, mais pas en tirer des généralités sur l'islam. C'est une personne physique qui a essayé de provoquer, qui a essayé d'appliquer sa religion comme elle entend, et elle doit être sanctionnée. Non pas parce qu'elle est musulmane, mais elle doit être sanctionnée parce qu'elle ne respecte pas la loi.
Personne qui a dit qu'elle devait être sanctionnée parce qu'elle était musulmane.
Ouais, personne dit ça.
Mais bon, moi je pense maintenant qu'il faut trouver des solutions. Et je sais que ça va faire hurler encore, mais je pense vraiment qu'il faut de la présence policière au sens premier, des policiers en uniforme. Il y en a dans un certain nombre de pays, au sein même de nos lycées, de nos collèges, parce que... Flora, je termine. Ça renouera le lien entre les jeunes et la police, on nous parle souvent de ce lien. Et puis, ça sécurisera les enseignants. Et donc, moi, je le dis, je suis pour une présence d'un ou plusieurs agents
de police dans chacun de nos établissements. Ce qui s'est passé à l'extérieur. Le policier à l'intérieur de l'établissement, ça n'empêche pas l'instrumentalisation à l'extérieur, de mort, mêlent.
Mais la dénonciation calomnieuse, elle est déjà punie. Hein. Donc là, cette jeune fille, elle a imputé un fait qui n'a pas existé à son proviseur. C'est de la dénonciation calomnieuse. Faut la sanctionner pour ça.
Nous sommes avec Julien qui va intervenir avec nous au 32-16. Bonjour Julien.
Bonjour.
Bienvenue Julien. Comment vous réagissez à cette affaire du proviseur du lycée Ravel alors? Comment réagissez-vous?
C'est très compliqué parce que moi je suis offusqué, voilà, vraiment, parce qu'en fait on tourne le problème dans tous les sens. Après moi je vais simplement donner mon exemple. Ma fille, bah, j'ai deux enfants, j'ai une fille de 8 ans qui s'est retrouvée à être insultée de raciste à 8 ans et devoir choisir entre finalement la Palestine ou Israël à 8 ans. Et en fait, mais elle a été prise à partie par... Pour des trucs, un truc insignifiant à la base. Alors, je vous expliquais, c'est qu'en fait, on a reçu une invitation, un mot de la part de l'école, nous demandant si on voulait ce que les enfants fassent, apprennent l'arabe, donc, ou le portugais ou le turc. Et nous, on avait dit avec ma compagne, ah non, il en est hors de question. Sauf que nous, en fait, on est hors de question, non pas par racisme, je m'en fiche, mais en revanche, parce que moi, j'estime, on doit d'abord maîtriser le français et l'anglais. elle, elle est allée répéter. Et forcément, si ses copines d'école, on le dit, ah, t'es une raciste, etc. Et ben bah, dans ce cas-là, tu es pour qui? Et ils lui ont dit, je suis sûr que tu es pour Israël. Mais
à 8 ans,
vous vous rendez compte? À 8 ans, vous vous rendez compte où on en est venu? C'est outrageant.
Oui, Israël-Palestine à 8 ans, oui.
Et le problème, c'est ce qui fait le nid de l'extrême droite. C'est sur des cas particuliers c'est comme fabuleux. Ça qui ne sont pas acceptables, on va en tirer des généralités, comme si ça se passait tous les jours, à chaque minute, à chaque endroit, dans toute la France.
Mais Mourad, voilà. On te parle.
C'est des cas uniques.
Écoutez, Julien. Écoutez, Julien.
Je sais que tu te sens visé.
Mais non, Mourad, t'es fabuleux parce qu'on parle d'un problème lié à un islam conquérant qui met la pression partout, sur toutes nos institutions, et tu dis, ah bah c'est la faute de l'extrême droite.
Non,
je voudrais que Julien finisse son exemple, allez-y.
Ah, ouais, voilà, en fait, moi je veux juste tenir mon propos. Moi, je ne suis ni gauche, ni droite, ni centriste, etc. Aujourd'hui, je vote blanc. Je vote blanc parce que je ne crois plus en aucun politique. Donc, je ne fais pas l'apologie de la droite.
Oui, mais moi, je voudrais comprendre pourquoi votre petite fille de 8 ans s'est fait interpeller par ses camarades de classe pour lui dire, toi t'es pour Israël. Qui étaient ces gamins? Pourquoi est-ce qu'ils ont demandé à votre petite fille?
Ils entendent ça à la maison.
Justement, c'est ça, Julien. Pourquoi c'est venu comme ça?
C'est ça, c'est de la connerie.
Mais non, sauf que où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est ni la faute de l'école, ni des
l'école n'est plus un sanctuaire, c'est-à-dire que tous ces problèmes de l'extérieur viennent à l'école.
Ouais, ça fait longtemps.
Le cœur du sujet,
je finis juste sur ça, je suis désolé. Mais en fait, pour moi, l'école doit être exactement comme tu viens de dire, Flora. C'est-à-dire, c'est un sanctuaire. J'emmène mon enfant dans l'école et pour moi, c'est de la confiance. Et aujourd'hui, on n'a pas à choisir ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas à mettre des policiers devant les écoles. C'est de l'éducation parentale. Là, le problème, ce n'est pas un enfant qui va de lui tout seul de se dire, ah bah tiens, t'es raciste. Non ! À 8 ans, ils n'ont pas la culture de la religion. Ils n'ont pas la culture et le raisonnement mental de se dire, tu fais ça, donc tu es ça.
Non. Oui, bien sûr. Mais moi, je peux vous donner un autre exemple. Vous savez, pendant les événements de septembre, du 11 septembre, moi, j'avais mes filles qui étaient dans un lycée privé. Immédiatement, on leur a expliqué qu'elles étaient des terroristes, avec le nom qu'elles avaient. Voilà, c'est la même connerie.
Qui leur a expliqué ça?
Les camarades de classe. Parce qu'avec le nom et le prénom qu'elles avaient, qui ressemblaient beaucoup à ceux qui avaient fait les attentats, pour eux, ils avaient assimilé à ça, vous êtes aussi des terroristes. C'était dur à vivre pour elles aussi. Donc, il y a de la connerie, mais on ne va pas les généraliser.
Que les enfants importent de manière enfantine des conflits politiques et qui s'approprient des concepts qu'ils ne connaissent pas, comme le racisme, ça a toujours existé. C'est de tout temps que les enfants se harcèlent. C'est de tout temps. Là, le problème, c'est que ça a pris une dimension qui est beaucoup plus forte à cause des réseaux sociaux, à cause de la tension de la société. Et donc, plus que jamais, on a besoin de l'autorité des professeurs. Et moi, ce que je déplore...
Le proviseur avait fait preuve d'autorité.
Et bien sûr.
Mais c'est lui qui a été menacé de mort, qui est obligé de sortir.
Ce que je déplore, c'est qu'on ne laisse pas et qu'on ne protège pas les professeurs qui veulent faire exemple d'autorité. Mais souvenez-vous de la jeune fille Mila, il y a quelques années, qui avait été largement harcelée par ses camarades.
Et qui a dû être déscolarisée.
C'est elle qui avait dû être déscolarisée et pas ses harceleurs. Alors,
c'est pas normal.
Avait été viré plus tard.
Et puis ces harceleurs ont été condamnés.
Voilà, par le temps de. Voilà, ils ont été condamnés, mais plus tard, parce que la justice prend du temps. Et ça, c'est normal.
Par contre, aujourd'hui, il faut
qu'on ait une méthode qui permet d'être extrêmement rapide. C'est les harceleurs,
tous ceux qui touchent
à l'école se font sortir immédiatement.
On est avec Yacine qui nous appelle de la Loire. Bonjour Yacine, qui est professeur d'histoire-géographie. Bonjour Yacine.
Oui, bonjour. Vous m'entendez?
Que pensez-vous de ce qui est arrivé à votre collègue proviseur du lycée Ravel alors?
Bah, c'est un peu dommage déjà qu'il démissionne, mais c'est pas à cause de l'État. C'est vraiment pas du tout à cause de l'État. C'est un problème générationnel, comme j'ai pu dire au standard. C'est un problème générationnel. C'est maintenant les jeunes, ils cherchent le buzz, ils cherchent des choses comme ça. Du coup, ils répondent aux professeurs, ils sont contre l'autorité, et on en vient à parler d'eux. Avant, à mon époque, j'ai 33 ans, quand j'étais au collège, il n'y avait pas ces problèmes-là. La fille, elle arrivait voilée, bah, elle l'enlevait sans même que le prof ait besoin de lui dire.
Donc en fait, on veut défier l'autorité.
Exactement.
Mais pourquoi
on veut défier l'autorité? Mais parce que c'est les jeunes, c'est comme ça, C'est tout ça.
Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place de votre collègue? Alors, comment vous auriez procédé?
Bah, moi, j'aurais dit la même chose. Tu enlèves le voile, je l'aurais expliqué. Et si elle m'aurait insulté, parce que je ne sais pas exactement s'il y a eu les insultes ou pas, si ça s'est vraiment avéré. Du coup, si elle m'aurait insulté, bah, j'aurais fait, j'aurais amené au proviseur, tout simplement.
Peut-être que cette histoire, ça serait retourné contre vous et que on vous aurait accusé de brutaliser cette jeune fille. Bah, et derrière, une députée de la République, sans savoir le sujet, serait venue raconter n'importe quoi.
Sous-entendre qu'il y aurait eu violence.
Oui, peut-être, il n'y a pas de souci, peut-être, il n'y a pas de problème, mais quand même pris le temps d'expliquer à la jeune fille le pourquoi de mon comportement, je lui aurais expliqué. Et j'aurais même pris part dans les réseaux à parler avec elle, même pris dans les médias à parler, tout simplement.
Mais vous savez pourquoi l'école a perdu de son autorité? Parce qu'à une certaine époque, l'école était gage de réussite sociale. C'est-à-dire qu'un bon parcours social, un bon parcours scolaire, vous assurez une ascension sociale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Bon, il y a un décalage entre la réussite professionnelle et la scolarisation, parce qu'il y a plein d'exemples, il y en a plein, et l'école est un peu décalée par rapport au monde nouveau. Et c'est là-dessus qu'elle a perdu son autorité, l'école, parce qu'elle n'assure plus, plus l'ascension sociale.
Merci à vous Yacine, merci à Catherine et merci à Julien d'avoir participé à notre discussion. On a posé la question sur les réseaux sociaux, ce proviseur du lycée Ravel dans le 20e qui finalement a décidé de démissionner après l'affaire de la jeune fille. Voilà, est-ce que c'est la faillite de l'État? Eh bien, c'est un oui massif à plus de... Faillite de l'État, juste de faillite de l'État. C'est-à-dire que l'État n'a pas été là pour le soutenir. C'est un oui massif à plus de 96%.
Et si on mettait faillite de Macron, on avait 99%.
Dans un instant,
102, on
s'en fout, on s'en fout pas. Aya Nakamura qui va chanter sûrement l'hymne à l'amour aux Jeux Olympiques. Les pièces de 2 euros distribuées, vous savez, en série limitée pour les JO, les pièces de 2 euros qui ont été données aux élèves, elles se vendent déjà à prix d'or sur le bon coin. Est-ce qu'on s'en fout, on s'en fout pas tout de suite?
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules en direct du grand rendez-vous de l'industrie française à Villepinte au salon Global Industrie, une industrie française qui repart, une industrie française qui recherche 200 000 postes. Cette année, le salon a décidé de mettre en avant les nouvelles technologies, l'innovation, la transition écologique,
l'intelligence artificielle,
tout ça c'est l'avenir, et on cherche des jeunes, on cherche des ingénieurs, on cherche des petites mains, enfin bref, on est dans un endroit où on a besoin aujourd'hui de croissance, justement. Donc on en parlera tout à l'heure à 10h20 avec notre invité Antoine Dire, c'est avec nous, consultant auprès des entreprises. Mourad Boudjela, l'éditeur de bande dessinée, nous accompagne, tout comme Flora Ghebali, entrepreneur dans la transition écologique. Et on y va pour le on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Nice Saints.
Bonjour Alain, bonjour les GG, bonjour à tous les GG. Tiens, la cérémonie d'ouverture des JO, ça se précise un peu ce matin au sujet du concert prévu le 26 juillet prochain. Alors ce sera bien du piaf qu'on entendra. C'est même l'hymne à l'amour qui tient la corde d'après le Parisien. Est-ce qu'on s'en fout
ou
pas?
Oui, mais
attends, est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora?
On s'en fout pas.
Mourad?
On s'en fout pas.
Antoine?
On s'en fout pas.
Le titre phare d'Edith Piaf sera-t-il chanté par Aya Nakamura? Aucune confirmation officielle aujourd'hui, même si cela semble être le souhait d'Emmanuel Macron. L'hymne à l'amour à la cérémonie d'ouverture des Jeux, chanté donc probablement par Aya Nakamura. Et c'est pourquoi on s'en fout pas, mon cher Antoine.
On s'en fout pas parce que Emmanuel Macron est en train de nous faire une espèce de truc où il va faire les JO de la banlieue. C'est-à-dire que j'espérais un truc un peu festif qui rassemble l'ensemble des Français. Et on a le sentiment qu'en choisissant Aya Nakamura, il choisit une image plus qu'une artiste. Il choisit de montrer qu'il est aux côtés d'une certaine France plutôt que d'une autre. J'espérais qu'on puisse faire quelque chose de plus rassembleur, moi.
Mourad. Wow.
Je dois dire que tout à l'heure, Mourad et Flora nous ont dit, quand on entend du Aya Nakamura, on a envie de danser. Est-ce qu'on peut mettre du Aya Nakamura et voir si Mourad et Flora se mettent à danser?
Attendez,
parce qu'il paraît que c'est quasiment
automatique. Garder un peu de dignité quand même.
C'est ce que Flora m'a dit tout à l'heure.
Comment on fait si Mourad vous...
Alors déjà, l'hymne à l'amour par Aya Nakamura.
Moi, je trouve que je suis bien sûr pas d'accord avec ce qu'a dit Antoine. Je trouve d'abord que le message est superbe, parce que de passer de l'hymne à l'amour de Édith Piaf à Yana Kamoura, ça démontre que des deux côtés, c'est la France. Et que, aussi bien Édith Piaf que Yana Kamoura, que la France est un pays qui avance, et que dans notre pays, aujourd'hui, ce pays a évolué. Ce pays a avancé culturellement, il est multiculturel et chacun apporte beaucoup à la culture française. Il apporte beaucoup à la culture française et la culture urbaine apporte beaucoup à la culture française. Yana Kamoura, elle a 80 ans d'histoire française par la colonisation française au Soudan, le Soudan français. Donc elle est française et aujourd'hui elle représente la France. Que ça plaise ou que ça plaise pas, Jean Dujardin et Omar Sy représentent la France et c'est ça la France avec ses différences, avec ses gens issus de cultures différentes. Et c'est la force de notre pays par rapport à tous les pays du monde.
Les héritières d'Edith Piaf ont donné leur accord. C'est un signal fort.
Alors moi je suis très embêtée, pas parce que Yana Kamoura chante, parce que Emmanuel Macron nous fait croire qu'il est de gauche juste parce qu'il n'est pas raciste. Mais être raciste, c'est pas être de droite. Être raciste, c'est commettre un délit. Donc il va falloir que le peuple de gauche de France comprenne que Emmanuel Macron fait de la politique de droite et de temps en temps il nous envoie un petit symbole comme ça, une petite bouchée de pain comme ça pour nous dire hey, oh regardez-moi, je suis pas raciste. Mais heureusement qu'il n'est pas raciste puisque le racisme est un délit. Il est condamné par la loi. Donc Yana Nakamura, elle remplit le Stade de France. Elle est française, elle est festive. Vive Yana Nakamura. Et par contre,
voilà. Ah tiens, alors vas-y.
Je danse.
Bah, tu m'as dit, dès que j'entends, j'ai envie de danser. Alors vas-y, surtout comme on est très mal assis, ça te permet de te lever.
Ouais, c'est vrai. Non, je vais pas danser, mais par contre, les personnes qui sont contre Yana Kamoura, elles m'expliqueront comment elles se dédouanent d'une accusation de racisme. Les GG.
On enchaîne.
Les JO, toujours. Vous vous souvenez de ces pièces de 2 euros à l'effigie des Jeux qui doivent être distribuées aux élèves de primaire ? Vous vous souvenez, à peine acheminées vers les écoles, certaines de ces pièces collector se retrouvent déjà sur Le Bon Coin et à prix d'or, jusqu'à 1000 euros, même la pièce de 2 euros sur certaines annonces. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Antoine ?
On s'en fout pas.
Mourad ?
On s'en fout pas.
Florin ?
Moi, je m'en fous.
Alors, 4 millions d'élèves vont recevoir cette pièce collector dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, seuls les enseignants les ont reçues.
Donc c'est 8 millions d'euros qu'on distribue.
8 millions d'euros distribués, contactés par BFM TV, un des vendeurs de cette pièce sur Le Bon Coin, admet avoir un enseignant dans sa famille. Ceci explique peut-être cela. Donc Flora, tu t'en fous, Mourad, pourquoi on s'en fout pas?
C'était prévisible. C'était prévisible que la pièce de 2 euros, elle risquait de prendre de la valeur et que ceux qui la recevaient, ça n'avait rien à cirer. Par contre, la revente beaucoup plus chère que son prix, ça pouvait les intéresser. Voilà.
C'est-à-dire que ces gens-là gèrent mieux que l'État.
Si pour l'État, c'est une surprise, c'est inquiétant. C'était totalement prévisible. Et puis je note quand même que
c'est nul,
on nous parle de tenue budgétaire. On vient de brûler 8 millions d'euros.
C'est exactement là où je voulais en venir. C'est à dire qu'on vient de faire 5,5% du PIB de déficit annuel, la pire dette publique pour ce gouvernement, et il distribue des pièces. Non, arrêtez de distribuer des pièces, arrêtez de distribuer des chèques, soyez raisonnable sur le budget.
On est quand même dans une époque où tout se revend.
Oui, c'est surtout
les cadeaux de Noël. Tu offres un cadeau Noël, hop, immédiatement à minuit, hop, tu le revends une fois que la soirée est terminée.
Tu pilles un magasin pendant les émeutes.
On t'offre une pièce de 2 euros qui peut être une pièce de souvenir, parce que les JO, on va le vivre qu'une fois dans notre vie. Tu pourrais le garder et puis après, même en parler à tes enfants. Ah, tu vois, moi j'ai vécu les JO, j'avais cette pièce. Ouais. Non, tout de suite, allez, je vais me faire un peu de beurre là-dessus. On est quand même dans une société assez étonnante.
Bah, en même temps, tu es dans une société où tu sais pas si l'année prochaine on va pas se prendre une ogive nucléaire sur la gueule. Donc peut-être que les gens, ils vivent le présent.
L'optimisme de Mourad, qui est persuadé depuis de longues semaines déjà qu'on va avoir une guerre nucléaire.
Il n'a pas peur de Poutine.
Il n'a pas peur
Poutine
de l'islamisme, mais il a peur des Russes.
Plus le temps passe, plus il s'en a tendance à me donner raison.
Les GG, l'autoroute A7 au sud de Lyon, limitée à 50 km/h en heure de pointe sur une portion de 8 km.
C'est Anne Hidalgo qui est responsable.
Ah non, là, c'est pas Anne Hidalgo. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Mourad?
Je m'en fous, mais ce qui me fait rire, c'est qu'en heure de pointe, le 50 km/h, il sera respecté parce que c'est les bouchons.
Antoine ?
On s'en fout pas.
Flora ?
On s'en fout pas.
Depuis mercredi dernier, les GG, la portion de l'A7 entre Ternay et Fézin, soit 8 km, donc est limitée à 50 km de 7h du matin à 9h30 seulement en semaine. Une baisse de la vitesse liée à la création d'une voie de covoiturage. La création de cette voie réservée la plus à gauche, c'est une 3-voies, aura pour effet de réduire le nombre de véhicules, la pollution, les nuisances sonores. Le maire de Vienne, qui se situe un peu plus au sud de Lyon, dénonce lui une mesure accidentogène. Pourquoi on s'en fout pas, ma chère Flora?
Bah, on s'en fout pas parce que la question de la limitation de vitesse, elle est toujours pas réglée hein, sur les questions de pollution. C'est sûr qu'il va falloir s'attaquer à ce sujet à un moment. Mon cher Alain Marchal, autour de cette table, m'a dit en off, mais je vais craquer ce off, la semaine dernière, finalement, c'était pas si mal d'enlever les voitures du centre de Paris parce que en vrai, ça va dans le sens de l'histoire.
Donc, il devient plus en plus bobo, Alain Marchal.
Mmh. Je craque, ouais, ouais.
On l'a vu à vélo hein, tout à l'heure.
Je craque son off.
C'est l'âge. Ouais.
Je craque son off parce qu'il m'a dit, en fait, une bonne politique publique, c'est parfois une politique publique courageuse qui ne met pas tout le monde d'accord au début. Et quelques années après, on se dit, bon, bah, finalement, c'est vrai qu'on ne reviendrait pas dessus. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Si Rachida Dati est élue prochaine maire de Paris en 2026, elle ne va pas réouvrir des voies. Elle ne va pas revenir sur la politique de sortir la voiture de la ville. Pourquoi? Parce que ça va dans le sens de l'histoire. Donc aujourd'hui, il faut se poser la question sur les autoroutes. Je ne dis pas de manière brutale.
Sortir la voiture des autoroutes, c'est
ou mettre les autoroutes à gagner. Il faut se poser la question des transports en commun.
Flora voit toujours par l'angle écolo, c'est important. Mais là, en l'occurrence, c'est l'angle de la fluidité de la circulation qui est important. Et moi, je pense que si le fait de diminuer la vitesse permet de la fluidité, je suis prêt à diminuer la vitesse.
Ce qui arrive sur des portions d'autoroute où on est limité à 110,
exactement.
Notamment sur l'autoroute de Normandie, un tronçon où on est à 110 en retour de week-end parce que ça permet de fluidifier
exactement.
Le trafic.
En roulant moins vite, on arrivera plus tôt.
Et donc, 50 km/h sur l'autoroute.
Mais oui, mais
c'est une trois voies.
Oui, mais c'est un tronçon.
8 km/h.
Ça se trouve, c'est en bout.
Mais personne ne respecte.
Moi, je suis respectueux et si ça permet 50. À tout le monde d'arriver plus tôt au boulot, bah, on roule à 50. Hein.
On est déjà sur l'autoroute Lyon-Marseille.
Est-ce qu'on pourrait appliquer le tarif par rapport aux limitations de vitesse?
Là, t'es avant le péage.
Eh ben oui.
T'as besoin qu'on t'aide à payer tes péages, Mourad.
Je voulais t'en parler.
Non, parce que quand tu payes l'autoroute, tu payes pas en fait, tu payes l'autoroute.
Le problème.
Tu payes pas le résultat, ce que tu vas vivre ensuite sur l'autoroute.
Le problème aujourd'hui sur l'autoroute, c'est que c'est un peu l'anarchie de la vitesse, des limitations de vitesse.
Oui.
C'est-à-dire, tu passes de 130 à 110, et tu sais jamais
si
c'est bien signalé, tu sais pas pourquoi. Et c'est pareil aujourd'hui
sur les nationales.
Sur les nationales.
Parce qu'en plus, maintenant, comme les départements ont le droit d'être soit à 80, soit à 90, tu changes de département.
Sur les nationales, c'est le pire d'ailleurs. Quand tu mets ton appli, tu sais, pour faire ton chemin, tu demandes d'ailleurs en général, tu dis là, je suis à combien là, tu vois,
et puis
le GPS ou Coyote ou je ne sais pas quoi, on dit bah là, c'est
à la française.
Et 150 mètres plus loin, tu sais, tu vois, d'un coup, ça change et tu es repassé à une vitesse supérieure. Donc là, c'est surtout ça aujourd'hui ce qu'on attend. C'est plutôt une harmonisation parce que tu as l'impression que ces changements de vitesse comme ça, c'est plus pour essayer de te piéger et de faire en sorte que tu sois flashé par les radars qu'autre chose. Ah bah oui, je suis désolé, Florent.
Les radars, c'est une machine à cash. La sécurité routière, ils n'en ont rien à cirer. Ce qui les intéresse, c'est faire rentrer un impôt indirect.
Et on en a besoin. Bien sûr.
Moi,
bien
je sûr. Rêve d'un pays où tout le monde serait raisonnable. Il n'y aurait pas besoin de limitation de vitesse.
Va vivre en Allemagne.
J'y vais régulièrement, j'adore ça.
Non, mais même dans les pays du Nord, ça, je suis d'accord. Ouais. Moi, je me souviens, en Norvège, j'ai été très surpris. Les autoroutes sont magnifiques. Tout est beau en Norvège. D'ailleurs, on est un pays du tiers-monde. Quand on arrive en Norvège, on a l'impression d'arriver dans un pays très, très riche. Et c'est vrai que tout le monde roule lentement.
Oui, mais on est
personne ne dépasse.
Culturellement,
c'est peut-être pour ça qu'on a fait des révolutions. C'est peut-être pour ça qu'on a fait avancer la planète par moment. Et
mais c'est peut-être le mauvais côté des Français.
On n'est pas des soumis, c'est comme ça.
Et moi, je suis
on est des Gaulois, on a peur que d'une seule chose, c'est que le ciel tombe sur la tête.
C'est vrai, t'es un nordique.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, les écoles de puto, vous savez, où on avait mis en place les uniformes pour les enfants, eh bien, on s'est aperçu que les uniformes viennent du Bangladesh et du Pakistan. Est-ce que c'est honteux? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules.